of Things, l'Internet des objets. Un sujet qui a fait le buzz, mais qui a un peu disparu des actualités quotidiennes des développeurs. Ce n'est pas qu'il est devenu obsolète, bien au contraire, c'est qu'il est arrivé à maturité. Et comme dirait David Vincent, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et bien pour nous parler d'IoT, aujourd'hui on a un épisode 100% basque, puisque je reçois Jon Mikel Inza. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Richard.
Microsoft MVP depuis 2021, catégorie Internet of Things, IoT et Cloud Solution Architect chez Codit. Donc toi, l'IoT, c'est un peu ton dada, quoi.
C'est mon dada depuis quelques années, depuis 2015 à peu près. Et avant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Solutions cloud, solutions distribuées, DevOps, etc. Mais ouais, depuis 2015, forte spécialisation là-dedans. Voilà. Ouais.
D'accord. Alors c'est vrai que l'IoT c'est un peu, je veux pas être méchant en disant que c'est passé un peu de mode, mais c'est vrai qu'on en a parlé, il y a eu une grande vague de l'IoT il y a quelques années, et puis là maintenant il y a l'intelligence artificielle un peu de partout, donc ça change un peu tous les ans quoi. Mais bon, c'est un sujet qui est quand même assez chaud et assez brûlant. On en a parlé donc pendant pas mal d'années. On voit bien ce que c'est qu'un device IoT. On en a, je pense que tout un chacun a au moins un device IoT chez lui, même s'il ne le sait pas. Ouais. Mais concrètement parlant, donc ça c'est le device, mais bien sûr le device il vient dans une solution globale. Alors justement, c'est quoi une solution IoT ?
C'est très, très intéressant, tu poses la question, et par la façon dont tu as mené le sujet, c'est vrai que l'IoT, avant de répondre à la question, juste un petit aparté sur ce que tu disais, l'IoT a été très à la mode pendant quelques années, mais il faut comprendre que l'IoT existe depuis au moins une trentaine d'années, sous différentes formes dans l'industrie, ça a traversé différentes phases, et depuis à peu près 2014-2015, il y a un gros hype, une grosse vague de l'effet de mode, comme on est en train de vivre en ce moment avec l'IA, mais qui à l'époque c'était sur l'IoT. Donc maintenant l'IoT ça se calme un peu, ça devient normal, sauf qu'on a l'avantage que les solutions sont nettement plus matures qu'il y a quelques années, et on est là justement pour en parler. Donc qu'est-ce que c'est une solution IoT? Comme tu as très bien décrit le device, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est un device IoT, même si il n'y a pas une forme spécifique d'un device IoT. Presque n'importe quoi qui soit connecté à un réseau et qui émette de la télémétrie ou interagit avec peut devenir un device IoT en tant que tel. Mais la solution IoT, elle est là pour rôle, gérer ces devices, gérer la sécurité de ces devices, récolter la data, la router, la parser, la vérifier, la traiter, extraire de la valeur et la mettre à disposition aussi, parce qu'il ne faut pas juste que récolter de la donnée, la mettre à disposition, et pour la mise à disposition, il y a différentes formes, soit des API, soit construire des modèles intelligents, dont l'IA, et potentiellement, c'est un cycle qui se rétroalimente, parce qu'on va extraire de la valeur et on va l'injecter dans le device qui, lui, il est intelligent. Il y a des devices qui ont la capacité d'avoir de la logique locale ou IA. Et ainsi, on construit une espèce de cercle virtueux qui s'auto-alimente et qui s'améliore petit à petit.
C'est vrai qu'au niveau des devices, moi je travaille sur un projet où on fait de la récupération de données dans de, alors c'est de l'IoT si on peut dire, mais enfin c'est des machines outils, des capteurs qui sont un petit peu à gauche à droite dans des usines, et ça existe depuis effectivement des années et des années quoi. La grosse différence c'est que maintenant, on a aussi des devices qui sont, comme tu disais, qui sont intelligents, dans lesquels on va pouvoir réinjecter de l'intelligence avec les données qu'on a capturées, quoi.
Ouais, enfin ça, côté device, les devices, ils ont beaucoup plus de capacités et l'aspect, on va dire, l'écosystème des devices, il est super hétérogène aujourd'hui. On peut avoir des tout petits devices qui n'ont presque aucune capacité, mais qui font que de la recours de télémétrie, des devices qui ont un peu plus de capacité où on peut interagir dans les deux sens, du device vers le cloud et du cloud vers le device. Et ensuite, il y a des devices qui ont plus de capacité en CPU et mémoire, qui peuvent avoir de la logique locale. Et maintenant, on a vraiment des devices entre guillemets, qui sont vraiment des rack serveurs à la place du entre guillemets device, pour amener beaucoup plus de capacité de traitement dans différents cas d'usage. Le cas d'usage le plus commun et le plus connu pour ça, c'est par exemple l'analyse vidéo. Souvent, transférer tout le flux vidéo du device vers le cloud, c'est ultra coûteux, en plus de confidentiel, et pas toujours possible. Mais on veut extraire de la valeur de cette analyse vidéo ou son, sans faire transiter toutes ces informations-là par le réseau. On construit les modèles qui vont analyser tout ça sur place, en fait, sans qu'il y ait transit de données du device vers le cloud. Et le device va extraire l'intelligence ou l'information juste dont il a besoin de transmettre au cloud à partir de tout le flux vidéo. Et il va émettre que ça, et le cloud va générer d'autres modèles plus intelligents qui va réinjecter à son tour au device, et ainsi de suite. Et le device, il gagne aussi la capacité de pouvoir réagir par rapport à tout seul, sans attendre un ordre du cloud. C'est un petit peu l'IoT riche, on va dire, avec du edge. Cette notion-là dont je viens de parler, c'est la notion de edge.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai un exemple, je vais faire de la pub pour Le Grand et puis Netatmo, là. J'ai une caméra de surveillance Netatmo qui permet de reconnaître les gens qui pénètrent à l'intérieur de la pièce. J'imagine qu'ils ne vont pas balancer l'entièreté des données du flux vidéo sur leur serveur pour pouvoir analyser. Ah bah tiens, c'est le chien de Richard qui vient de rentrer dans sa cuisine, quoi.
À un moment donné, ça se faisait, mais enfin, ça pose forcément des problèmes d'architecture déjà, et ensuite de confidentialité de notre côté, et sécurité aussi. Mais aujourd'hui, non, ça se fait plus du tout. Hein. C'est enfin, transiter tout ce type de flux, non. Et dans la médecine aussi, on surveille beaucoup la nature des flux qui vont transiter entre le device et le cloud, parce que enfin, c'est très délicat. En fait. Voilà. Dans la grosse industrie aussi. Les industriels ne voyaient pas que la donnée sensible transite par les réseaux non maîtrisés par eux. Du coup, ils veulent qu'il y ait le moins de transit d'informations possible. De plus en plus de edge, etc.
D'accord. Donc, si je comprends bien, donc on a d'un côté des devices qui peuvent être plus ou moins intelligents, et puis de l'autre côté, on a des serveurs qui vont traiter ces informations et qui vont peut-être même réinjecter donc ces données.
C'est ça.
Tu peux nous en dire plus sur ce type d'architecture?
Ouais, clairement, clairement. Voilà. Dans une solution IoT, il y a plusieurs rôles en termes de composants. Le premier rôle, c'est quelque part la passerelle qui va faire la collecte des informations. Donc, ça va, c'est une espèce de gateway par laquelle vont transiter toutes les données récoltées par tous les devices et sur lesquelles, enfin, ou derrière lesquelles, on peut mettre des mécanismes de validation de données, aussi bien dans le format que dans le domaine, et construire des routes différentes des données en fonction de la typologie de données. Par exemple, on va pas traiter de la manière une alerte qu'une mesure de température nominale sans aucun contexte d'alerte ou de besoin de traitement rapide, en fait. Donc, on peut distinguer différents flux. Ça, c'est le premier composant, on va dire la gateway. Souvent, ce composant-là, il a aussi un autre rôle qui est celui de gérer les devices. Dans l'IoT, la sécurité est très importante. Parce que si il faut qu'on sache, il faut qu'on ait la main à tout moment sur les devices pour pouvoir dire j'active ou je désactive le device, je sais quel est ce device, je connais l'identité de ce device-là. Pourquoi? Parce que les devices, c'est pas comme des PC que je maîtrise à peu près. Une fois qu'ils partent dans la nature, on les maîtrise plus physiquement. Donc il faut qu'on ait le contrôle quelque part sur l'input et l'interaction avec ces devices-là. Donc sur ça, il y a différents types de solutions. Mais côté cloud, l'IoT Hub, si on veut parler d'Azure, l'IoT Hub a ce rôle-là de gérer les devices, gérer leur identité, gérer la sécurité et récolter la data.
Mais
Derrière la... Ouais.
ça veut dire qu'au niveau des au niveau des devices, il y a des protocoles qui permettent d'identifier le device. C'est pas uniquement sur, j'allais dire, de façon très, très triviale, c'est pas uniquement l'adresse IP, entre guillemets, du device. Il y a d'autres informations.
On peut le faire sous différentes formes. Il y a déjà l'identité logique, l'identité que nous on veut donner au device. Donc on peut nous-mêmes donner une identité propre au device au moment du provisioning. Provisioning, c'est l'étape justement de créer cette identité-là dans l'IoT Hub. Ça peut se faire avec un autre service qui s'appelle DPS, un service qui fait du provisioning automatique. Cette identité qu'on vient de générer, cette identité qu'on vient de générer, elle est authentifiée soit par du certificat, soit par des clés qui sont générées une fois que le provisioning est fait. Et c'est ces éléments de sécurité qui doivent être injectés dans le device d'une manière ou d'une autre pour garantir que la sécurité de l'identité est garantie, en fait. Soit des certificats, soit des clés. Ça repose sur des protocoles de communication comme NQTT, NQP ou HTTPS, même si HTTPS n'est pas du tout utilisé dans l'IoT, c'est soit NQP ou surtout du NQTT.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça rejoint un autre on va dire, concept intéressant, c'est les architectures orientées message, parce que de plus en plus, quand on a des architectures non seulement IoT, mais des architectures distribuées et très scalables, on va vers du message et vers des services comme ServiceBus, EventHub, EventGrid, etc. Et tous ces services-là reposent sur du messaging ou eventing, qui derrière repose sur de la NQP ou du NQTT. En fait.
D'accord, ouais. Pour être sûr que côté serveur, le message que l'on reçoit, il est bien identifié et il appartient bien à un device que l'on est en train de gérer, quoi.
Ça, c'est pour la partie identité côté IoT Hub. Et ensuite, une fois qu'il traverse l'IoT Hub, c'est surtout pour garantir la scalabilité et la qualité de service sur la consommation du message. Parce que une fois qu'on passe en mode message, c'est entre guillemets de l'asynchrone. On n'est plus en mode connecté et on peut scaler beaucoup plus facilement, en fait. Et l'IoT, c'est un domaine qui est très sensible à la scalabilité parce qu'il y a des solutions. On a 100 devices, mais on peut passer d'un POC dans lequel on a 1000 devices à une solution en prod où on a des centaines de milliers de devices. Il faut que la solution est in. Donc, la scalabilité, c'est primordial.
Oui, j'imagine que si on a 250 000 thermomètres qui balancent leur température, il faut qu'il y ait quelque chose derrière.
Ouais. Et c'est en ça où les archis dont on commençait à parler tout à l'heure sont importantes dans l'IoT. On a l'IoT Hub qui est le premier nœud central dans les solutions IoT. Mais derrière, on peut avoir une multitude de services en fonction de ce qu'on veut faire et de la latence souhaitée. Pour router les messages, traiter les messages, extraire de la valeur et même les stocker. En fonction de comment on veut stocker la donnée et comment on veut traiter la donnée stockée, on peut partir sur Azure Storage, le classique, on va dire, du Blob Storage, soit du non structuré avec du Cosmos DB ou semi-structuré, soit de l'ADX pour faire de l'analytique en temps réel, soit Stream Analytics, c'est pas du stockage, mais pour faire de l'analyse en streaming, SQL Database, forcément, Databricks de plus en plus, ou Synapse quand il y a de très 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 gros besoins de data warehousing. C'est les très gros consommateurs en ont besoin, mais pour une petite structure, c'est pas toujours nécessaire.
D'accord.
Voilà, tout ça pour dire que dans les solutions IoT, il n'y a pas que de l'IoT. Il y a Azure, solutions distribuées, data, API, Azure Function, un paquet, tout type de stockage, de l'IA de plus en plus. Voilà, c'est ça une solution IoT. C'est pas juste. Ouais. Comment je gère mon device, en fait.
On a effectivement les centaines de devices. Comme tu dis, il y a le provisioning, c'est-à-dire l'identification, entre guillemets, si je comprends bien, je résume, l'identification des devices à l'intérieur de ton hub. Le hub qui est un petit peu le grand Manitou qui, après, va dispatcher les messages vers derrière des solutions d'archivage ou de traitement des données. Avec des possibilités, avec la BID, on a eu Microsoft Fabric qui a été présenté. J'imagine que ça rentre dans cette logique-là.
Clairement. C'est, Fabric essaie de, simplifier un peu le décor data qui commence à devenir complexe. Il y a tellement de services data aujourd'hui qu'on ne sait pas trop comment faire le choix. Fabric est censé simplifier un peu ça, mais ouais, ça rentre exactement dans ce cas de figure. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans les solutions et dans l'offre IoT de Microsoft, on fait un très gros focus sur la data. Après tout ce hype sur le device, maintenant on fait un gros focus sur la data et comment gérer la data, avec notamment comme le service que tu as mentionné, Fabric, mais aussi l'intelligence artificielle, avec différents types d'intelligence artificielle, et le Kubernetes pour le Edge. Il y a un Kubernetes spécifique pour le Edge qui est en train d'être implémenté par Microsoft, enfin, pas implémenté par Microsoft, mais que Microsoft met en avant, justement pour adresser ce type de problématique.
Quand tu dis le Edge, c'est-à-dire c'est pour être au plus près des devices, quoi.
Exactement. Je parle ni d'IoT Edge, qui est une solution spécifique de Microsoft, ni du browser, soyons clairs. Edge, c'est une notion d'architecture dans l'IoT pour dire qu'on est au plus près possible de la prise de mesure. En fait. On est vraiment là où la data se crée.
Juste une petite question, là, justement, sur la communication du device avec l'IoT Hub. Là, jusqu'à présent, on a parlé de connexion, j'allais dire entre guillemets, connexion Internet, c'est-à-dire ça suppose une connexion Wi-Fi ou autre.
C'est ça.
J'imagine qu'il y a d'autres types de connexions, parce que j'ai vu une solution, par exemple, d'IoT qui mesurait le niveau de remplissage des poubelles qui étaient distribuées un petit peu partout en région parisienne. Et donc qui avertissait le grand patron en disant attention, il y a cette poubelle à cet endroit qui est pleine, il faudrait peut-être intervenir, quoi. Et ouais, là c'est des choses qui sont un petit peu perdues dans la nature, donc connexion Internet, c'est pas possible, quoi.
Non, il y a c'est un très bon point, hein. C'est dans l'IoT, il y a avant le device qui avait la capacité de se connecter à Internet, il y a surtout les réseaux on va dire radio qui communiquaient par du Sigfox ou LoRa, qui sont les réseaux on va dire historiques dans l'IoT. Et avant ça, il y en avait d'autres, mais bon, enfin, on va pas trop partir trop loin dans l'histoire. Mais Sigfox, LoRa, Sigfox a un peu de mal. Là, c'est LoRa qui s'impose un peu.
Ah oui, parce que Sigfox, ouais, ils avaient un petit peu le vent en poupe. Là, c'est une société française d'ailleurs qui a lancé ça.
Ouais, ils sont originaires d'à côté de Toulouse, en fait.
Oui, c'est ça, ouais.
Et ils avaient réussi à grandir au niveau mondial, mais là, ils ont un peu de mal. Ils commencent à être dépassés par. Enfin, le protocole Sigfox a un certain nombre de limites qu'aujourd'hui l'IoT de manière générale ne peut pas accepter, en fait. Pour les très petits devices, ça passe très bien, mais pour les gros devices qui ont besoin de communication bidirectionnelle, par exemple, avec Sigfox, c'est pas possible ou c'est très limité.
Ouais, la taille des messages est limitée, oui.
La taille des messages est très limitée aussi. Le nombre de messages qu'on peut envoyer est aussi limité. LoRa est un peu du même genre, même s'il y a moins de limitations et les limitations sont différentes. C'est pour ça que LoRa a pris un peu le devant par rapport à Sigfox. Mais je pense que dans l'avenir, LoRa disparaîtra aussi avec l'apparition d'autres réseaux comme autour de la 5G.
Oui, j'imagine. Ouais, la 5G, c'est fait pour ça aussi, hein.
C'est fait pour ça, puis il y a quelques acteurs très connus dans l'IoT, dont Elon Musk, hein, qui pousse le réseau satellitaire sur de la 5G pour bouffer tout le marché IoT mondial, en fait. C'est l'une des raisons pour laquelle il pousse ça, en fait.
Oui, d'accord.
Après, ça pose un problème énergétique derrière parce que ça consomme plus d'énergie, mais bon, c'est petit à petit, il y a des solutions qui apparaissent pour ça.
D'accord. Donc, et aujourd'hui, quelle est la situation ? C'est quelque chose qui est fortement utilisé, ou alors c'est juste quelques acteurs ? Enfin,
Non, l'IoT, on va dire de manière générale, c'est même pas qu'il est présent, il est inscrit, ultra inscrit dans beaucoup de domaines aujourd'hui. On peut plus faire ça, en fait. Sauf que on vient de traverser une grosse phase de hype, une grosse vague à la mode, donc là on revient un peu à la normale, et on le sent même dans les éditeurs, hein, comme Microsoft où il y a beaucoup d'équipes IoT qui ont été on dirait décimé pour dire doucement.
limité, on va dire.
Limité. Mais c'est parce que l'IoT passe dans le mainstream des services Azure et que c'est plus considéré que comme quelque chose d'innovant. Enfin, aujourd'hui, c'est de l'acquis. Et on va investir beaucoup plus sur des services comme la data ou l'IA, où se passe la vraie extraction de valeur. Enfin, maintenant, on sait comment récolter la donnée, on sait comment gérer les devices de manière sécurisée, pour la plupart des cas d'usage. Je ne vais pas dire pour tous les cas d'usage, mais pour la plupart des cas d'usage. Et maintenant, on fait un gros focus sur comment je simplifie l'extraction de valeur, comment j'accélère ça, comment je réduis les ROI là-dessus, comment j'accélère le time to market, etc. Et la prise de décision plus rapide, etc. Donc aujourd'hui, le focus, on le sent vers ça. Le reste est mature, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on n'en entend plus trop parler, en fait. On a atteint un niveau de maturité qui est important. Il y aura des évolutions, hein. Ça ne veut pas dire que les autres services ne vont pas évoluer. On sait déjà que la IoT a un certain nombre d'évolutions. Living Grid va pas mal évoluer pour offrir des fonctionnalités intéressantes sur la IoT. On ne peut pas encore en parler publiquement. Enfin, voilà. T'es MVP aussi, tu sais qu'on ne peut pas tout dire. mais il y a des choses qui arrivent pour l'IoT.
L'Event Grid, c'est quoi?
Event Grid, c'est un service sur Azure, orienté sur de l'événementiel pur, qui permet de s'abonner en topic. Et tous les clients qui sont abonnés à ce topic-là, chaque fois qu'un client pousse un message là-dedans, les autres reçoivent la notification comme quoi il y a eu ce message-là qui était poussé sur Living Grid. On a le même concept sur le service bus topic, avec cet effet de propagation et broadcasting, mais les limites et les contraintes sont différentes. La scalabilité est différente aussi. Et il y a un changement fondamental qui va arriver dans Living Grid, qui est très demandé dans l'IoT, et voilà. J'en dis pas plus parce que je sais pas jusqu'où je peux en parler, en fait. et des services similaires comme ça, enfin orientés message dans Azure, il y en a plusieurs. Living Grid, c'est l'un d'entre eux. Event Hub, c'est un autre concurrent de Kafka, on va dire dans le monde de Java ou non Microsoft. Service bus topic, service bus queue. Voilà, c'est les quatre grands. Alors, ensuite, il y a le Stream Analytics qui permet de traiter, faire de l'analytique en mode streaming sur ces flux de messages, mais c'est plus, on parle plus de message broker ou autre. Voilà.
Oui, j'allais dire, quand on pense à une solution IoT, on peut se dire. Ouais, c'est tout con. J'ai un Raspberry qui envoie une API, qui appelle une API, qui envoie un message, et puis je stocke ça dans une base de données. Mais là, ne serait-ce qu'avec tous les services dont tu as parlé, on s'aperçoit que la mise en place est beaucoup plus compliquée que ça, quoi. J'imagine que tout dépend de la solution qu'on veut mettre en place, de tout le scénario qu'on veut mettre en place. J'imagine que si c'est, pour mon exemple, des quelques poubelles qui se remplissent, c'est relativement simple à analyser. Mais si c'est, je sais pas, moi, par exemple, ma montre qui prend ma mesure cardiaque et qui est balancée sur les serveurs, j'imagine que les traitements derrière sont pas du tout les mêmes, quoi.
Ouais, non, les traitements sont pas les mêmes. La gestion de la sensibilité d'information n'est pas la même non plus, et la célérité de traitement n'est pas la même non plus. Bon, en plus de la nature du traitement. Du coup, comme tu as très bien dit, à chaque problème ou chaque projet IoT a sa solution IoT, même si les patterns en termes d'architecture se ressemblent. Et au tout départ, c'est vrai que les solutions IoT se concentraient à juste récolter de la donnée presque la stocker en brut et l'afficher sur des tableaux de bord très simples. Mais ça fait longtemps que ça n'existe. Enfin, c'est plus du tout l'actualité des solutions IoT. Aujourd'hui, on veut extraire de la valeur de ce qu'on fait avec un device. Et la valeur, ça se traduit par la data ou l'extraction, enfin, la compréhension de ce qui se passe via la data. Donc, il faut pour ça avoir de la donnée qui est stockée. Enfin, il faut, un, de la donnée de qualité. Donc, il faut contrôler les devices, ne pas se faire pirater de devices, etc. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on a de la donnée de qualité, qu'on contrôle sa structure, les domaines, etc., la stocker de manière utile et intéressante et qui ait du sens pour nous, soit en format, soit de manière pré-mâchée pour faciliter et simplifier les calculs qui vont arriver. Et ensuite, tu as tous les calculs derrière ou la mise à disposition, soit des API, soit des systèmes d'intégration avec Data Factory ou autre, avec des systèmes tiers qui vont exploiter ces données. Et ça, sans parler d'IA, parce qu'après, il y a la partie IA pour construire des modèles qui vont nous permettre d'aller encore plus loin, beaucoup plus loin, et faire du prédictif. Par exemple, la maintenance prédictive, c'est un cas d'usage très connu dans l'industrie. Savoir quand est-ce qu'une machine va tomber en panne avant même qu'elle tombe en panne, parce qu'on a des modèles machine learning qui nous permettent de le savoir, en fait, de manière très précise, en fait.
Et ça, ça marche bien, ça ? Parce que j'imagine que derrière, il faut quand même pas mal de données en amont pour prévoir, quoi. Il a fallu qu'il y ait quand même pas mal de machines qui soient tombées en panne pour savoir que la prochaine, elle va le faire.
Ouais, ça marche étonnamment bien, honnêtement. Moi, j'étais le premier surpris. Je disais, bon, on doit avoir un niveau de, entre guillemets, pifométrie important. Non, ça marche étonnamment bien et ça change la donne dans la gestion du business des entreprises. Parce que tu as beaucoup moins d'interruptions de service, tu peux mieux gérer les équipes d'intervention. T'as pas d'arrêt, parce que, enfin, dans certains cas, l'arrêt d'une machine, ça a des impacts business énormissimes. Imaginons pour Engie, s'ils doivent arrêter une éolienne, c'est dramatique pour eux. Donc, s'ils arrivent à anticiper ces cas d'intervention, c'est un gain hallucinant, en fait. On l'imagine pas. C'est un cas d'usage très simple, mais le gain, il est important. Et ça, c'est juste un cas d'usage. Après, il y a vraiment beaucoup d'autres. C'est anticiper des comportements. On arrive même avec l'analyse du signal audio, à savoir qu'une machine va tomber en panne.
Eh oui.
Donc, par les patterns signaux qui sont émis. Donc, ouais, c'est... on prend de l'avance sur ça et on extrait de la vraie valeur. Et comme tu dis, il faut beaucoup de données. Vraiment beaucoup de données de qualité. C'est pas le volume qui compte, c'est le volume plus la qualité. Et c'est là où la solution IoT prend son sens.
Ce qui veut dire que c'est pas qu'une solution technique, c'est vraiment du fonctionnel pour savoir analyser, enfin d'avoir de savoir analyser que effectivement si la machine elle fait bam bam bam, bon, on sait qu'elle est en panne, mais je prends ça de façon humoristique, mais il y a des choses qui doivent être beaucoup plus fines, et il y a une connaissance des machines pour savoir justement quand est-ce qu'elles vont tomber en panne en amont, quoi.
Exactement. Si la solution technique ne marche pas, l'extraction de valeur ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas parce que la solution technique est bonne que l'extraction de valeur est bonne. C'est un très bon point.
Ouais, c'est encore pire que quand on fait un développement de logiciel bête et méchant. On dit souvent, il y a le développement, bon, il y a des bugs, etc. Mais après, il y a le fonctionnel. Il faut que le fonctionnel ait bien dit ce qu'il voulait avoir comme application. C'est encore plus vrai.
Ouais. Je dirais c'est vrai dans toute application, sauf que là l'impact il peut être énorme dans le sens. Ouais, surtout en termes de frais, parce que les infra IoT de grande échelle sont souvent des infra assez coûteuses, on va dire. Enfin, assez coûteuses. Coûteuses dans l'absolu. On s'y retrouve sur le bilan, on va dire, financier. Le retour d'investissement, il est souvent. Souvent très intéressant, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement. S'il n'y en a pas, ça fait mal.
Oui, et puis si tu, c'est pas la même chose si tu déploies sur une dizaine de devices ou sur un million. Si tu déploies sur un million et oups, un problème, il faut patcher le BIOS de chaque truc. Un peu de mal.
Exactement. Ouais, puis là, tu touches à d'autres problématiques. C'est comment tu fais la mise à jour de 1000 devices que tu maîtrises pas physiquement, qui sont pas répartis dans la nature. C'est pas.
Une fois que c'est parti, quoi.
c'est parti. Enfin, on a des mécanismes pour garder la main et pour faire de enfin, ce qu'on appelle de l'OTA, des mises à jour over the air.
Ouais.
Mais il faut le prendre en compte dès le départ, parce que si tu l'as pas pris en compte au moment où le firmware du device est fait, ou l'applicatif sur le device est fait, une fois qu'il est parti, après, si tu veux faire des mises à jour, soit tu fais déplacer des gens là où le device est, soit tu ramènes le device chez toi. Donc, et c'est, ouais. c'est très coûteux. Enfin, ça se fait plus. Hein. Enfin, aujourd'hui, quasiment tous les devices ont la capacité de pouvoir se mettre à jour à distance.
Alors, une question bête, justement, c'est ces devices, parce que souvent on dit utiliser je dis peut-être une grosse connerie, hein, utiliser un Raspberry pour faire votre POC, et puis après, mais un Raspberry ça coûte quand même pas mal de sous, quoi, surtout si tu veux le déployer sur des centaines et des centaines de lieux. Après, il y a la construction entre guillemets du device. Il y a une construction sur mesure. Comment ça se passe actuellement dans ce domaine-là?
Il y a différentes approches. Après, moi, je ne connais pas beaucoup côté device parce que moi, je suis très très focalisé sur la partie solution. Mais ce que je peux te dire, on va dire globalement sur device, c'est qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la construction des devices. Donc, où le client arrive avec un besoin spécifique en disant, moi, j'ai besoin de device qui fait ça, ça, ça et ça. Et la boîte, enfin, c'est des boîtes d'électronique et de hardware. Hein, c'est donc ils construisent des devices. Qui partent même de la construction de la carte électronique avec les composants et tout ce qu'il faut. Après, il y a d'autres plateformes comme Raspberry ou plein d'autres qui proposent des espèces de, on va dire, des devices par défaut pour faire des choses. Mais quand les industriels cherchent l'optimisation, souvent ils partent pas vers les Raspberry parce que le ratio fonctionnalité-coût est trop important pour eux, donc ils préfèrent leur propre device. Et là, ils cherchent vraiment l'économie jusqu'au centime près, enfin, dans le matériel.
Et ça, enfin, en France, on est bien placé ou c'est pas en Chine?
Non, on a vraiment des constructeurs électroniques pour l'industrie en France. Je pourrais pas tous te les lister, mais on a quelques-uns et qui sont reconnus en fait. Après, je saurais pas te dire si ces organismes-là ou ces boîtes-là appartiennent. À des groupes industriels internationaux, ça je ne saurais pas te dire. Mais il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont français.
D'accord.
J'ai pas envie de citer les noms au cas où je me plante. Mais moi, je travaillais avec des acteurs qui sont en France et qui font les composants en France. Par exemple, côté Raspberry, ce que je disais, c'est ça revient entre guillemets trop cher pour un gros industriel, mais pour si tu fais un petit projet avec quelques centaines de devices, tu t'affranchis de la construction de devices. Pour le coup, de ce côté-là, ça, c'est intéressant.
D'accord. Alors, si on revient à côté développeur, si je veux me mettre dans l'IoT, je te rassure, hein, c'est pas mon cas. Mais...
Ouais, t'y es un peu à moitié.
Ouais. Non, mais je suis derrière, moi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, quelle est la courbe d'apprentissage réelle pour un développeur dans l'IoT?
Enfin, aujourd'hui, on a la chance que MS a pas mal simplifié les choses là-dedans avec Microsoft Learn, où il y a déjà un parcours tout fait pour l'IoT et se lancer dans l'IoT et avec un chemin qui est plutôt simple pour démarrer, mais clair, qui permet de comprendre les problématiques de l'IoT. Donc, enfin, ça, c'est l'un des premiers, premiers axes, on va dire. Et je parle toujours depuis la perspective solution IoT. Hein. Côté device, c'est totalement différent. Donc, côté solution IoT. Ensuite, il faut bien maîtriser des langages, on va dire, qui s'exécutent côté cloud, on va dire, C#, Python, Java ou autre, parce que les SDK pour des solutions IoT ou Azure de manière générale, ils sont sur l'ensemble de ces langages là. Moi, je recommande C# parce que bon, on est sûr qu'on couvre tout et on n'a pas de problème. Donc voilà, c'est bien maîtriser C#. Les outils de dev, moi, j'utilise toujours Visual Studio. Je sais que le Visual Studio Code, il est très à la vogue et très à la mode pour du scripting, shell, ou le web. Côté back-end, moi, je pense que Visual Studio est encore un peu devant. Enfin, Visual Studio ou équivalent, comme ouais, Ryder ouais. Ou autre.
Oui, c'est sûr, tu as vexé Laurent. Donc.
Voilà, ouais, je pensais justement à lui en disant ça. et ensuite, il faut avoir une bonne compréhension des architectures derrière. Qu'est-ce que ça implique? L'architecture, c'est toujours important. C'est encore plus important dans Azure et c'est encore beaucoup plus important dans les solutions IoT. Pour pouvoir faire des solutions qui sont scalables, sécurisées, qui sont monitorisables, parce qu'aujourd'hui souvent c'est quelque chose qu'on oublie, on se focalise sur le dev, on déploie sur Azure, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. on a l'appli qui marche plus, mais on ne sait pas pourquoi. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là, de rendre les applis distribuées, monitorisables, ça c'est important. Et ensuite la data. Qu'est-ce qui se passe avec la donnée, enfin les différents systèmes de stockage. On n'est plus à l'ère où on stockait tout dans un SQL Server. Non, c'est terminé. Mm-hmm. Maintenant, on a différents, enfin pour les solutions distribuées, je veux dire, on a différents systèmes de stockage qui répondent à différentes problématiques, à différents besoins. Et on peut avoir une même donnée qui est stockée sous différentes formes dans différents systèmes de stockage pour différents cas d'usage. Donc, c'est ça un peu le parcours pour se lancer dans l'IoT. Je sais que c'est un peu vaste et que ça peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur. De toute façon, il y aura le cloud dans quasiment toute appli distribuée, il y aura de la donnée dans quasiment toute appli distribuée, et il y aura la monitorisation dans quasiment toute appli distribuée. Donc ça, c'est commun à toutes les applis distribuées et l'IoT. Et ensuite, la partie pure IoT avec les services IoT qui sont décrits par Microsoft Learn. Voilà.
D'accord.
devdevdev.net. Richard Clark.
Bien, et donc, une fois qu'on a, j'allais dire, on est tout prêt, on a déployé, on a construit entre guillemets son architecture et on a développé ses différentes applications. Après arrive le moment où on veut industrialiser tout ça, c'est-à-dire mettre en place toute cette solution. Comment ça se passe? C'est super simple, on appuie sur un bouton.
Si on a bien fait notre boulot, on appuie sur un bouton. Mais c'est un gros conditionnel en fait. Pourquoi? Parce que c'est un sujet. Tu fais bien de poser la question parce que c'est un vrai sujet en fait dans l'IoT et dans les gérants dans toute appli distribuée. Pourquoi? Parce qu'on a plein de petits bouts de morceaux d'applications un peu partout. Sur une solution IoT un peu riche, on peut avoir 20-30 services facilement sur Azure, avec chacun leur bout de code. Et si on veut garantir que... Enfin, déjà, si on veut tout déployer de manière automatique, il faut prévoir le DevOps ou l'IAC, appelons-le comme on veut, ou les pipelines pour déployer ça de manière industrielle et avec le contrôle de qualité qui va avec pour chaque déploiement. Mais il ne faut pas... en plus du contrôle qualité de chaque composant, il faut qu'on vérifie aussi la qualité de l'ensemble. Donc, il faut en plus de rajouter le contrôle qualité d'intégration, donc les tests d'intégration, etc., de bout en bout. Et sur IoT, vu qu'on a des devices, il faut prévoir de pouvoir simuler ou interagir avec des devices de test sur cette partie industrialisation, générer de la télémétrie qu'on maîtrise pour les tests, et qu'on peut suivre tout le long du process pour s'assurer que l'ensemble de la solution fait ce qu'il est censé faire. Et c'est vraiment pas simple. Enfin, il faut bien réfléchir à comment faire les choses. et c'est là où c'est indispensable de réfléchir au DevOps et à l'IAC. L'IAC, c'est Infrastructure as a Code. Qu'on veut faire de l'ARM, Bicep, du Shell, Terraform, peu importe le socle de la solution technique, mais il faut réfléchir comme ça dès le départ. Ça déjà, rien que pour le déploiement. Ensuite, pour monter les environnements, c'est important de manière générale de le faire aussi. Pourquoi? Parce que garder une prod, ok, tout le monde a besoin d'une prod, mais si on va avoir les plateformes intermédiaires pour faire les tests, vu que dans l'IoT, c'est souvent des plateformes qui coûtent très cher, on ne peut pas les garder allumées tout le temps, en fait, parce que ça coûte trop cher. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est on détruit la plateforme quand on n'en a pas besoin et on la reconstruit quand on en a besoin pour faire les tests de manière automatique. Si on n'a pas l'IAC ou l'industrialisation pour pouvoir faire ça, c'est mort. Et ça se traduit en problème, enfin, déjà en agilité dans les équipes et en coût financier pour la boîte qui fait le dev, parce que pour le coup, tu vois, si tu n'as pas ça, tu vas devoir payer le fait de garder une plateforme opérationnelle qui coûte très cher et, quand tu n'en as pas besoin. Donc oui, il faut, c'est un vrai sujet, il faut réfléchir pour l'IoT ou autre projet cloud et encore plus pour l'IoT.
Oui, parce que c'est vrai que je veux dire, c'est, je reprends mon exemple là, de ma montre qui prend ma mesure cardiaque. Effectivement, ça rentre dans un ensemble parce que j'imagine qu'il y a la mesure cardiaque, mais il y a les autres types de capteurs. Donc, il y a des services qui sont différents services qui sont un peu partout. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça, quoi.
Ouais, tu as déjà la cohérence sur le métier, la valeur et que tous les flux suivent le bon chemin. Mais ensuite aussi, ce qu'on appelle les acceptances critériales de la solution, que la latence est bonne aussi. Parce que si tu as le bon résultat, mais au bout de 10 heures, alors qu'il te faut une réponse en moins de 30 secondes, ouais, par exemple, c'est pas bon non plus. Donc, c'est là où il faut... Enfin, c'est vraiment important d'industrialiser tout ça. Sinon, c'est... Enfin, c'est pas possible, en fait.
Ouais. Ouais, et puis j'imagine, oui, c'est vrai que pour les tests, c'est pas uniquement des tests unitaires, il y a des tests de montée en charge où il faut que tu puisses gérer effectivement qu'il y a 250 000 IoT qui vont se connecter à tes services, quoi.
Mais là, par exemple, les tests de montée en charge sont indispensables, mais on peut gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent si on fait un peu d'archi avant de faire les devs. Et là, enfin, je vais promouvoir un peu ce que je promets un peu dans les équipes avec qui je travaille, se former, se poser des questions, se former, réfléchir à ce qu'on va faire avant de le faire. Enfin, en réfléchissant un peu, on peut économiser beaucoup de temps après, même si on fait on est obligé de faire des tests de montée en charge. Mais il y a des patterns qui vont nous permettre d'anticiper beaucoup de problèmes, donc pas besoin de refaire des choses si on suit certains patterns, etc. Voilà.
Ok, bon, si je te suis bien, c'est entre guillemets, je veux pas dire que c'est pas compliqué, mais il y a énormément de choses à appréhender. Et je pense qu'il faut avoir un savoir-faire quand même assez conséquent, un background assez important pour imaginer des solutions qui soient viables.
Ouais, exactement. Enfin, c'est pas compliqué, ça peut être complexe, mais c'est pas compliqué. Il faut savoir quels sont les services à utiliser, les flux à imaginer, etc. Avec le temps, au fur et à mesure, il y a des accélérateurs qui sont apparus dans le marché, certains open source, d'autres propriétaires, qui mâche une partie du travail et qui mâche une partie des architectures et qui pose le socle des solutions pour 80% des projets, on va dire. Donc, on peut se faire aider par ces outils-là aussi. Mais oui, qu'il y ait outil ou pas, il faut comprendre un peu, on est très loin du capteur qui envoie la donnée et le projet se termine là. Non, non, enfin, il y a beaucoup.
Oh, c'est dommage, parce que moi, j'aimais bien. Bon, et donc pour conclure, le futur de l'IoT, tu le vois comment? C'est un peu vaste comme question, mais...
C'est, on le vivra pas, je pense pas qu'il y aura pas... Enfin, l'effet de mode est terminé, je pense. Hein, je pense qu'on est d'accord là. Enfin, du moins, sur le plan marketing et sales, l'effet de mode est terminé. Sur l'aspect technique, les services, il y a encore des besoins dans le marché cette année, l'année qui vient, 2024, on sait que les services vont évoluer. 2025, c'est un peu trop loin. Donc, je pense que pour moi, il va évoluer en tant que. La discipline va évoluer en tant que discipline mainstream. Maintenant, ça fait partie de la normalité. C'est plus un truc hype innovant. Et sera de plus en plus enrichi par de l'outillage, de l'assistance, etc. Why not un copilot for IoT? Ça, je ne sais pas si on verra un jour quelque chose comme ça. Peut-être. Mais voilà, pour moi, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est déjà inscrit dans la normalité des choses et dans l'industrie, ça existe depuis une vingtaine, trentaine d'années. Oui. Ça a pris d'autres formes aujourd'hui et ça va continuer à prendre d'autres formes. J'ai aucun doute là-dessus.
Alors, on a parlé beaucoup d'Azure et des solutions proposées par Microsoft. Mais il y a d'autres acteurs qui font à peu près la même chose, je sais pas, chez AWS ou...
AWS aujourd'hui c'est on va dire le concurrent on va dire de Microsoft sur enfin de manière générale sur le cloud et en particulier aussi sur l'IoT. Donc point de vue solution IoT. Hein. Après côté device il y a d'autres concurrents. Google était dans le marché mais ils ont annoncé qu'ils allaient fermer leur solution IoT. Donc voilà ça a déjà fait je pense hein, que la solution IoT de Google n'existe plus. Il y avait IBM aussi qui avait leur offre IoT, ils l'ont fermé aussi. Après, c'est deux gros acteurs qui ont beaucoup de noms. Donc, les gens, tout de suite, ils ont commencé à dire oh, c'est la fin de l'IoT. Enfin, il faut savoir que ces acteurs-là, ils avaient des parts de marché très petites en fait. Voilà, ouais. c'est, aujourd'hui, le marché, c'est Microsoft et AWS. En tant que provider de solutions techniques. Après, il y a des providers de verticaux, on va dire, des solutions packagées en mode SaaS ou autre, comme PTC ou autre, mais ça, c'est pas. On est dans un autre domaine. C'est vrai.
D'accord. Ok, bon, bah, écoute, merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, et c'est vrai que c'est assez passionnant, quoi. Écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Non, mais merci de te remercier de m'avoir donné cette opportunité, cette chance. Et comme tu dis, c'est un sujet passionnant et qui est très loin que de l'IoT, en fait. Derrière, on rejoint les solutions distribuées sur Azure. On peut parler de PaaS, de containerisation, de data, d'IA. Enfin, là, on peut enchaîner sur plein de sujets qui sont tous aussi passionnants. Donc, et c'est là où je trouve l'IoT est très intéressant parce qu'on est obligé de faire un peu tout en fait. Voilà.
Ouais, d'accord. Ok, bon, bah sur ce, moi il faut que je me dépêche parce que demain il y a les demi-finales de rugby à Saint-Sébastien là.
Ah, il faut que tu prennes les entrées, c'est ça?
Voilà.
T'as raison.
Ok, bah merci beaucoup. Et puis,
à une prochaine fois.
Allez, ciao.
À une prochaine. Salut. Bye.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire avec plein d'étoiles pour nous aider. Si vous voulez discuter avec nous, rejoignez-nous sur notre serveur Discord sur devdevdev.net/discord ou sur Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.